Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je devrais dire bonsoir d'ailleurs, puisque nous enregistrons cette émission en direct et qu'il est 18h30 sur Eiffel Radio. C'est le Club Eiffel, donc le Club Eiffel qui ouvre ses portes et je suis très heureux d'accueillir avec toute l'équipe d'Eiffel Radio Lloyd Chéry, qui est rédacteur en chef adjoint de la revue Métal Hurlant, que tous les amateurs de BD et de science-fiction connaissent bien, et surtout qui est également le créateur d'un des podcasts probablement les plus écoutés concernant ce genre littéraire, la science-fiction, qu'il a intitulé lui-même « C'est plus que de la science-fiction ». Bonsoir Lloyd.
Bonsoir, merci de l'invitation.
Alors, tu reviens directement du festival de BD d'Angoulême, qui s'est déroulé du 30 janvier au 2 février. Et tu es l'un des ambassadeurs du prestigieux du festival Les Mycéliades, donc ici à Armentières, et où Eiffel Radio a posé ses micros au sein de la médiathèque L'Albatros. J'ai demandé à Sébastien Dissler, qui est rédacteur dans le média en ligne Les Mille Mondes et qui est passionné de SF et de fantasy, de me rejoindre pour cette heure. Bonjour Sébastien.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Lloyd, c'est quoi la science-fiction pour toi ?
Alors, c'est une vaste question.
Ça démarre très fort.
Ouais, c'est pas mal. Donc la science-fiction, c'est un genre littéraire qui est devenu après un genre cinématographique, un genre vidéoludique qui est né à la fin du 19e siècle. On dit que un des grands-pères de la science-fiction serait Jules Verne, donc un auteur de science-fiction connu, en tout cas qui a fait des nombreux classiques de la SF. Typiquement 20 milieux sous les mers, par exemple, ou Voyage au centre de la Terre. Maintenant, on cite que celle qui aurait inventé le genre est Mary Shelley, avec Frankenstein, qui en effet raconte une histoire de créatures terribles et sordides qu'on fait naître grâce à la technologie de l'époque. Le mot science-fiction a été créé par Hugo Gernsback au début des années 30, je crois que c'est en 1927, que le terme a été utilisé pour désigner une revue. Et maintenant, la science-fiction est un genre littéraire très populaire. On va dire que quand il y a de la SF, il y a de la technologie, il y a de l'espace, il y a plein de sous-genres de science-fiction. On en compte à peu près, je crois, 8 ou 9. Je vais essayer de tous les dire sans trop me tromper, mais il y a le space opéra, la hard science, le planet ou le space fantasy, la dystopie, l'uchronie. Il y a le cyberpunk, il y a le post-apo, voilà, j'en ai 17, il doit m'en manquer un ou deux. Mais du coup, la science-fiction est devenue un genre très très populaire, notamment avant tout grâce à sa littérature dans les années 40. On désigne ce moment-là comme un âge d'or de la SF, avec des auteurs comme Isaac Asimov, donc qui a écrit Les Robots et aussi Fondation. Il y en a évidemment d'autres, mais à ce moment-là, c'est l'âge d'or. Et puis est arrivé le cinéma audiovisuel qui assez rapidement commence à faire de l'ASF. Georges Méliès est le premier, je crois, réalisateur à avoir fait de la science-fiction, donc en adaptant Jules Verne. Mais en fait, la science-fiction va connaître de plus en plus une popularité massive aussi via l'audiovisuel, et notamment avec un film comme 2001 c'est de l'espace en 1968 qui va lancer une espèce d'âge d'or et qui va connaître son summum avec Star Wars en 77. Et puis depuis, la science-fiction, elle est partout sur le petit écran, sur le grand écran, via les jeux vidéo. Des fois, l'actualité ressemble peut-être à des mauvais moments ou à des mauvais romans de science-fiction. Je pense que la période du confinement aurait pu faire un bon scénario de SF. Bon, on l'a vécu tous ensemble, donc c'était une aventure de science-fiction collective. Mais en tout cas, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on vit une espèce de bascule où des inventions technologiques qui avaient été créées dans les années 40, 50, 60 commencent à se matérialiser réellement. Notamment, si certains ont vu 2001 c'est de l'espace, il y a des fameuses tablettes. On voit des vidéos dessus. Bon, c'était avant l'iPad et avant l'iPhone. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ceux qui font peut-être de la science-fiction actuellement, qui sont, je pense, les patrons de la Silicon Valley, comme Elon Musk ou Jeff Bezos, sont tous des amateurs de SF. Donc, c'est assez fascinant de voir que finalement, le genre de la SF maintenant commence à être concrétisé par des gens qui ont beaucoup d'argent et qui, des fois, sont dans un imaginaire très années 60, donc ça veut dire que c'est pas toujours bien, mais du coup c'est assez fascinant de voir que les références de ces mecs-là, c'est Frank Herbert pour Dune, c'est Asimov, c'est Arthur C. Clarke, c'est Bradbury, enfin voilà, c'est assez fascinant. Donc voilà, la science-fiction, c'est un genre assez dingue. Ouais.
Alors, tu faisais état il y a quelques instants de tous les sous-genres de la science-fiction. Est-ce que toi, tu mets effectivement des frontières entre toutes ces familles de science-fiction?
Alors, c'est toujours compliqué, les frontières, c'est bien pour les libraires, souvent, pour voir arriver à poser les livres au bon endroit. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, alors, la science-fiction en France, elle a eu mauvaise réputation, moins que la fantasy quand même. Mais du coup, pendant longtemps, ça n'a pas été considéré comme une littérature très sérieuse. Alors, c'est venu au fur et à mesure quand même, hein, on a eu des grands auteurs qui ont vendu à des millions d'exemplaires chez nous. Je pense à Pierre Boulle et sa Planète des singes, adapté à Hollywood encore maintenant. Je pense à René Barjavel avec La Nuit du Temps et Ravage, qui c'est des romans étudiés à l'école. Donc la SF a mis du temps avant d'être acceptée. Souvent, on utilise le mot d'anticipation pour dire que ce n'est pas de la science-fiction. Alors, c'est assez fascinant parce que Anticipation, c'est la toute première grande collection des années 50 de SF. Et maintenant, on utilise ce mot pour dire que ce n'est pas vraiment de la SF. Donc, c'est assez fascinant. En tout cas, ce qu'on peut qualifier de science-fiction, c'est clairement, on va dire, un événement avec du futur, voilà, ou une technologie qui a évolué. J'ai pas cité tout à l'heure, ou je crois que j'ai cité le genre de l'Uchronique qui imagine que l'histoire a été changée. Mais en tout cas, les frontières permettent aussi surtout de se repérer vis-à-vis du lecteur et du lectorat. Je sais qu'il y a des gens qui aiment plus le space opéra, qui est le western galactique, hein, c'est un peu Star Trek, c'est la nouvelle frontière. D'autres vont aimer les régimes totalitaires et horribles à la 1984, ça c'est la dystopie. Le post-apo a été mis très très en avant ces dernières années avec des séries comme The Walking Dead avec les zombies. Donc c'est assez marrant de voir que tous ces sous-genres-là voilà, fleurissent et se répètent. Après, moi ce que j'observe, c'est qu'on quand même on tourne autour de trois genres, trois voire quatre genres, on va dire, allez, qui est le space opéra, le post-apo, la dystopie et un peu le cyberpunk qui revient, qui était un peu le dernier grand genre à la mode dans les années 80-90, qui s'est un peu terminé avec la sortie de Matrix en 99. Et en ce moment, les derniers genres littéraires qui essayent d'émerger, c'est le solarpunk, c'est le hop-punk. Donc, c'est proposer d'autres types d'imaginaires. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu de succès majeur de ces genres-là pour pouvoir arriver à s'imposer. Donc, le cyberpunk tient encore la corde du dernier grand genre qui a vraiment inspiré, je pense, les gens. Et des films comme Blade Runner ou des films comme ça ont vraiment aussi aidé à imposer un imaginaire visuel de ce genre-là.
Alors, on va prendre quelques minutes pour parcourir un petit peu le cheminement de Lloyd Sherry tout au long de cette aventure qui, pour le coup, n'était pas de la science-fiction. Et puis, bien sûr, tu pourras corriger si on commet quelques erreurs parce que, chers auditeurs et chères auditrices, le parcours de Lloyd est tellement important que je pense qu'on va sans doute oublier quelques étapes. En préparant l'émission, on a vu que tu avais découvert la littérature imaginaire à 14 ans.
Ouais, alors moi, ça me fait toujours sourire qu'on me présente comme ça ou autre, parce que voilà, j'essaye de rester le plus simple possible et c'est toujours hyper encourageant
Tu ne
d'être
lisais
invité.
donc pas avant?
Si, je lisais. Non, non, moi, en fait, ouais, je commence à lire massivement du genre de l'imaginaire à un moment donné qui est assez. Bah, je pense que pas mal de gens de ma génération ont vécu. Ça veut dire que c'était après Harry Potter. Donc moi, je suis quelqu'un qui est né en 89. En 99, comme certains, je pense, j'ai reçu le fameux coffret. Des trois premiers Harry Potter. C'est le moment aussi un autre chef-d'œuvre sortait qui était Le Royaume du Nord de Philippe Pullman. Et puis bah, après va arriver Le Seigneur des Anneaux. Donc moi j'ai la chance, j'ai vécu le moment des trois grandes trilogies au cinéma que j'ai pu vivre, donc qui était Matrix, Star Wars la prélogie et Le Seigneur des Anneaux. Et donc bah, après avoir vu Le Seigneur des Anneaux, je pense comme beaucoup de jeunes, bah, tu as envie d'en avoir plus. Tu veux commencer à vivre aussi d'autres aventures hein, du même genre que Le Gouffre de Helm. Et donc moi j'ai commencé avec Légende de David Gemmell. C'est aussi un moment où les grandes collections d'imaginaires se renouvelaient. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la fantasy, en tout cas, la France a eu 50 ans de retard. Le Seigneur des Anneaux a été traduit en 73-74, donc qui est assez tardif. Les premières grandes maisons de fantasy arrivent au début des années 90. Donc, c'est-à-dire que dans les années 80, il y a des grandes collections de poches, hein, Pocket, notamment Pocket Imaginaire, avec les illustrations de Wojtek Siewmak. Mais il n'y a pas vraiment d'éditeur, il y a peu d'éditeurs en fait vraiment spécialisés. Et donc va arriver La Talente, va arriver Mnemos, va arriver ensuite Bragelonne. Donc c'est un moment, quand moi je commence à lire de l'imaginaire, c'est le moment où il y a une espèce d'explosion dans les FNAC et dans les librairies, où tout le monde en fait massivement. Donc bah, je découvre David Gemmell, je pense, qui a fait découvrir beaucoup, enfin beaucoup de, je pense, ados ont commencé avec ça, post-Harry Potter. Et puis moi, assez rapidement, je me mets dans Pierre Bordage, donc dans Les Guerriers du Silence, et je lis quasiment tout ce que fait Pierre Bordage dans les années, ouais, 90. Je suis un gros, gros lecteur. C'est vrai que moi, j'ai eu de la chance. J'étais dans une famille où les parents avaient interdit la télé, parce que je passais trop de temps dessus. Du coup, bah, je ne pouvais que lire. Et puis, j'habitais à côté d'une médiathèque, donc j'ai eu beaucoup de chance aussi. Et en fait, bah, assez rapidement, c'est devenu la BD, les romans de SF, de fantasy. C'était vraiment ça qui me nourrissait. Et il y a eu quelques, ouais, chocs littéraires. Mais en tout cas, Le Guerrier du Silence de Bordage et Légende de David Gemmell, ça fait partie des moments où je me suis dit, waouh, je vais en lire plus, c'est génial.
Alors, ça te laisse un petit peu de temps, toutes ces lectures, pour faire des études cinématographiques et également des études journalistiques. Et tu débutes une carrière de journaliste, on peut peut-être la résumer, avec beaucoup de presse écrite comme presse audiovisuelle d'ailleurs, hein, parce qu'on va te retrouver sur France Inter, on va te retrouver avec beaucoup de chroniques au point. Avant d'arriver donc dans les locaux de Métal Hurlant.
Ouais, en fait, j'ai eu de la chance. Moi, c'est assez intéressant. Moi, au début, je voulais faire de la radio. Donc, je fais des études de journalisme pour aller vers la radio. Je fais des stages à Radio France. Je vais à Move, je vais à France Inter, je vais à France Bleu Saint-Étienne. Donc, je me dirigeais plutôt vers une carrière de journaliste radio. Moi, je voulais pas du tout faire de l'écrit. Moi, je suis un ancien, hein, dyslexique et dysorthographique. Donc, en fait, l'écrit, c'était vraiment pas mon délire. Mais heureusement, bah, quand moi, je termine mes études de journalisme, j'ai 26 ans, je crois, ou 27 ans. Et c'est vrai que bah, y a des galères financières. Donc, en fait, je me mets à écrire pour vivre. Donc, je commence à faire ce qu'on appelle être pigiste. Donc, je commence au Bondy Blog. Puis après, arrive Le Point, Les Inrocks, Télérama. Et en fait, je commence progressivement à écrire. Juste pour gagner ma vie. Alors à l'époque, j'étais encore heureusement chez mes parents, mais du coup, bah, c'était vraiment la galère. Et moi, je voulais pas du tout être journaliste de presse écrite. C'était vraiment moi ce qui me faisait rêver, c'était la radio. J'avais été formé par Daniel Morin, donc humoriste sur France Inter, qui m'a dit une guideline qui me sert encore maintenant et qui m'a dit, dans un monde d'eau tiède, il faut faire de l'eau chaude. Voilà, donc super punchline, mais du coup, dans un monde d'eau tiède éditorial, voilà, moi j'ai toujours pris ça comme ça, il faut faire de l'eau chaude. Et donc, moi, quand je commence à faire de la presse écrite, bah, je le fais parce qu'on cherche quelqu'un en jeu vidéo au point. Moi, au début, je commence vraiment en me spécialisant sur des courants que la grande presse ne voulait pas forcément aller. Donc, les jeux vidéo au point, bon, pas le point et j'ai les jeux vidéo, ça ne va pas forcément ensemble, mais je commence comme ça, moi, à piéger sur ça, et puis au fur et à mesure, après. Je pige pour le point tech, donc le point culture, le point. J'ai même fait le point Afrique, j'ai fait le point société. Enfin bon, après, tu rentres dans une rédaction et puis tu commences à dire oui à tout. Et c'est comme ça que ça se passe. L'aventure de la pige a été hyper intéressante parce que j'étais formé par deux incroyables rédactrices en chef et qui m'ont formé à l'écriture. Parce que ça aussi, l'écriture journalistique, c'est vraiment une façon de faire, une façon d'écrire, une méthode, on va dire. Et j'ai eu pas mal de chance de réécrire beaucoup mes papiers. De vraiment pas mal réécrire. C'était une séquence. Moi, j'ai pigé comme un fou pendant 3 ans pour Le Point. Et vraiment, c'était une super séquence d'apprentissage de l'écriture. Je ne considère pas que j'ai du tout un bon style d'ailleurs. Enfin, c'est quand même l'écriture, c'est poussif. C'est un muscle qu'il faut travailler. En tout cas, moi, je relis ça avec la souffrance. Je me rappelle de certains articles que j'ai dû réécrire beaucoup. Mais par contre, ouais, j'ai fait un papier incroyable qui est cité dans des mémoires. C'est ma grande fierté journalistique. C'est une grande enquête qui s'appelle Pourquoi la fantaisie française se vend mal, qu'il faut que je remette à jour maintenant, qui date de 2018, je crois. Mais c'est un papier, je pense, qui disait vraiment beaucoup, beaucoup de choses et qui analysait en fait pourquoi en France on n'arrivait pas à avoir un Game of Thrones à la française. Donc en gros, pourquoi on n'arrive pas en France à vendre une saga à 4 millions d'exemplaires. Et donc, ça expliquait tout l'écosystème de la fantasy actuelle et qu'est-ce qui faisait que c'était très très compliqué avec plein de problématiques. Donc, ouais, et en fait, pour la petite histoire, hein, c'est vraiment comme quoi les problématiques financières ont été importantes pour moi. Quand je commence à écrire sur la science-fiction et la littérature de l'imaginaire, moi, mon boulot étudiant, c'était être médiathécaire. La rédactrice en chef du Point Pop à l'époque était lectrice dans ma médiathèque, donc on sympathise. Et donc, elle me demande, est-ce que ça te dirait d'écrire sur ces littératures-là? Donc je réfléchis et en fait je me dis vraiment hein, pragmatiquement hein, je me dis bon bah ok grâce à ça je vais pouvoir faire plus d'argent quoi je vais pouvoir faire plus de piges pour m'en sortir et je me spécialise en science-fiction à ce moment-là. Alors que j'avais arrêté de lire de la SF, moi j'ai beaucoup lu de genre de mes 14 à 18 ans. Arrivé à la fac, j'arrête totalement de lire de l'imaginaire pour lire beaucoup de classiques. Et en fait, je reprends à suivre la littérature d'imaginaire à 27-28 ans, ouais. À me spécialiser là-dedans en me disant, bon, bah, il n'y a quasiment personne sur le marché. Et donc, du coup, j'y vais. Et je découvre vraiment, bah, je rencontre tous mes auteurs préférés. Je m'éclate. Je m'éclate. C'est marrant, c'est un moment donné où on vivait en plus la fin d'un âge d'or dans l'imaginaire français. Donc, il se passait pas mal de choses. Et puis, bah, voilà, ma première grande interview, c'était Pierre Bordage. Donc, c'était l'auteur que je lisais quand j'avais 14 ans, quoi. Après, il y a eu Damasio. Après, tu crées des liens d'amitié avec tous ces gens-là. Et donc tout ça a mené en fait à ce que je fasse le MOOC Dune, donc une aventure éditoriale où en gros j'ai levé à peu près 100 000 euros et on a fait un livre de 300 pages qui est devenu le livre référent sur Dune, qui est un livre collectif. Et en fait, on en a vendu 23 000 exemplaires. Donc ça a été, c'est peut-être un des, je pense, un des plus gros succès de vente pour un beau livre qui ne parle de science-fiction avec des articles, puisque c'est à peu près 80% du livre sont des articles qui analysent l'œuvre de Frank Herbert, donc les personnages, les films. Et à l'époque, on avait la Warner qui était avec nous. Denis Villeneuve a donné sa première interview internationale chez nous. On a eu Jodo, on a eu plein de gens. Mais du coup, c'est vraiment grâce à ces aventures au point, à ces problématiques de pige et à ce truc de se dire, je vais commencer à faire de l'ASF juste pour gagner un peu plus ma vie, que je me suis spécialisé et que je suis maintenant derrière votre micro ce soir.
On va faire une petite pause musicale et puis on reviendra justement sur ces temps forts et les grandes rencontres. On parlera à nouveau de Dune, on parlera également du podcast autour de la science-fiction. On retrouvera également ta trace dans un nombre incalculable de festivals. Et puis on trouvera même ta trace du côté de la Bibliothèque nationale avec une participation à certains dossiers. On se retrouve dans un instant sur FL Radio.
Dell'amore in te, in mano di
C'était Science Fiction, titre de Christine and the Queen sur FL Radio. On parle de métal hurlant, Sébastien ?
Oui, tout à fait. Lloyd, ça fait maintenant à peu près 2 ans que tu es rédacteur en chef adjoint chez Métal Hurlant, donc qui a fêté récemment ses 50 ans. À cette occasion, on a eu droit à des titres comme les Opus Humano qui sont sortis pour retracer un peu l'histoire de Métal Hurlant. Il y a le numéro 14 qui est à paraître ce 19 février d'ailleurs, qui est consacré à cet anniversaire. Métal Hurlant n'a rien perdu de son charme d'antan et il est aujourd'hui plus que jamais ancré dans notre culture actuelle et profite d'un grand succès quand même. Est-ce que tu peux nous parler d'un peu de cette expérience au sein de l'édition de Métal Hurlant ?
Yes, donc en fait ce qui s'est passé c'est que donc suite à mon aventure autour de Dune, j'ai été repéré par Métal Hurlant. Donc le magazine avait commencé, le magazine a plutôt, on va dire, renaître ses cendres en 2021. Donc Métal Hurlant, il y a la première génération, c'est 73-86, je crois. Il y a une espèce de tentative de relancer Metal au début des années 2000 qui ne fonctionne pas. Et donc Metal revient en 2021 avec un financement participatif qui marche très fort. Et du coup, moi, on m'appelle donc en 2000, je crois que c'était en 2023. Donc la revue tourne déjà bien, c'est un trimestriel. Et moi, on me demande de venir pour doper le rédactionnel. Donc en fait, moi, je viens avec mon bagage journalistique pour faire le rédacteur en chef adjoint. Donc ça veut dire m'occuper des interviews, des reportages, des chroniques. Je fais souvent écrire des gens. Hein. C'est donc la bascule, hein, quand tu passes de simple journaliste à rédacteur en chef, tu n'écris plus globalement ou tu écris moins. Et je fais de la gestion éditoriale et d'équipe. Et donc moi, assez rapidement, l'ambition, ça a été de faire venir des grands noms dans Métal Hurlant, des grands noms francophones et aussi internationaux, pour aussi ouvrir le magazine à d'autres publics. Là, typiquement, pour le spécial 50 ans, on a eu Ridley Scott, on a eu Justice, on a fait Françoise Keuten, on a fait aussi Jean-Pierre Dionnet, évidemment. Mais du coup, il y a une envie quand même de tourner avec 2 à 3 stars qui viennent dans le numéro. Des fois, c'est un peu surprenant. Donc, on essaye aussi de surprendre un peu notre lectorat. Mais typiquement... on a eu Xavier Dolan, on a eu James Ellroy. On essaye vraiment d'avoir des personnalités diverses, des personnalités qui collent aussi avec l'ADN de Métal Hurlant pour qu'ils puissent rentrer dans ce numéro. Alors, ce qui est marrant, c'est que maintenant, on a des collaborations. Donc, on a fait un spécial chat. Donc, ça, c'était une idée de Jean-Pierre Dionnet, le créateur de Métal Hurlant. Il a dit que tout le monde aimait les chats. Donc, on va faire un hors-série spécial chat. Donc, ça a été assez, assez rigolo. Là, je prépare actuellement un hors-série spécial Hellfest. Donc, ça tombe bien puisqu'en fait... là, j'avoue, le métal, moi, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai fait appel à pas mal de gens spécialistes. Et donc là, on a récemment fait Gojira en interview. Enfin, il y a des choses un peu sympas qui se font. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, la marque Métal Hurlant est connue à l'international grâce à Heavy Metal aussi. Et donc, comme c'est le magazine qui a été créé par Philippe Druyet et puis surtout Moebius, on a beaucoup d'artistes et beaucoup de gens de créatifs qui acceptent de venir. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une marque qui est dingue. Donc les Japonais, les Américains disent oui. Donc c'est comme ça qu'on a des exclus. Typiquement pour Ridley Scott, on a 1h30 avec lui. La Paramount, ils ont halluciné. Paramount France, ils ont eu, je crois, un slot.
Métal Hurlant fait des jaloux.
Là, ça allait, parce que Paramount, ils étaient là pour Gladiator 2. Mais le fait qu'on ait réussi à avoir 1h30 avec Ridley qui t'appelle au téléphone, toi, t'es là, tu trembles, quoi. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et même la Paramount, ils se disaient, mais comment ils ont fait? Donc du coup, on aime bien surprendre. Donc là, pour le spécial Hellfest, on croise les doigts. On a fait une demande à Jack Black qui serait d'accord pour venir. Donc on croise les doigts pour que ça se passe. Mais typiquement, là, on prépare un spécial Océan. On aura Paul Watson qui a donné son accord tout à l'heure. Donc vraiment, on essaye de...
Lui, vous avez failli ne pas l'avoir.
Mais... Lui, on a failli pas l'avoir, ouais. Lui, on a failli pas l'avoir du tout. Mais là, il fait plein de médias. Il est en France. Il est plutôt bien chez nous. Mais ouais, on essaye vraiment d'ouvrir le numéro à différents types de personnalités. Et puis, y a un enjeu qui est aussi d'aller séduire un public plus jeune, donc plus jeune, 30-40 ans. On a beaucoup d'abonnés, c'est le lectorat qui lisait Metal dans les années 70-80 hein, qui est revenu. Mais nous, notre enjeu, c'est de venir aussi de trouver un autre type de lectorat et puis de gagner des abonnés. Et donc, on parle de jeux vidéo, on parle de culture web. Moi, j'avais lancé une rubrique sur... les bébés métal hurlants, donc ce qui est voilà, la nouvelle génération. Bah, le premier portrait qu'on a fait, c'était Alt236, donc le super youtubeur qui fait des vidéos de dingue. Donc on essaye vraiment de mettre en avant, nous, ce qu'on considère comme les créatifs actuels, les gens qui portent et qui ont, voilà, qui ont une voix. Et donc c'est impossible de ne pas parler de la culture Internet, c'est pas possible de ne pas parler de jeux vidéo. Metal, il faut se rappeler, hein, quand Metal est sorti en 73, c'est, ou en 74 réellement, c'est incroyable. Les gens, il y a une révolution, il y a une révolution graphique, parce qu'on n'avait jamais vu ça. On venait de Tintin, enfin, on venait des BD Spirou, des BD Tintin, des BD Jeunesse, et arrive Moebius Druillet. Donc pour les gens à l'époque, c'est une vraie révolution visuelle. Et puis Metal a été aussi les premiers à parler de punk, donc grâce à Philippe Manœuvre, qui était l'autre rédacteur en chef adjoint. Voilà, moi je suis passé après Philippe Manœuvre. Donc du coup, il y a une volonté aussi de parler d'électro, c'est pour ça que Justice est venu dans Metal. Et pourquoi pas parler de rap, même si je pense que les blics ne sont pas forcément les mêmes, mais je pense que c'est important d'en parler parce qu'il se passe quelque chose et c'est bien d'arriver aussi à parler de la culture actuelle sans jugement, mais plutôt d'inviter des gens qui ont des choses à dire et qui ont même souvent une culture BD. Dans le cas de Justice, ils ont vraiment voulu être là parce que c'était des lecteurs de BD, des Humanudes Associés, qui est la maison d'édition qui fait les Metal Hurlants. Donc c'était des lecteurs de Moebius, des lecteurs voilà, de toute cette génération. Donc c'est ça qui est assez sympa, c'est que grâce à la marque est tellement forte qu'en fait elle attire vraiment même des superstars qui diraient non à des médias classiques. Donc non, c'est super chouette, hein, c'est un beau terrain de jeu. Après, on est dans la logique d'une rédaction, donc il faut rendre les papiers, il faut les corriger, il faut que tout tienne, voilà. Mais ça c'est le plaisir aussi d'être dans un magazine où il se passe pas mal de choses et en termes de plumes, on essaye aussi de varier. Voilà, on fait travailler, je pense, une trentaine d'auteurs et d'autrices, beaucoup de journalistes, quelques universitaires aussi. On essaye vraiment de diversifier aussi les invités, les gens qui écrivent, pour qu'on garde aussi un peu cette fougue qu'il y avait dans Metal, où il y avait toujours des profils différents dans les numéros.
Vous êtes combien de permanents dans la revue?
En fait, pas beaucoup. Moi, même pas. Alors, il y a Jerry Friesen, qui est le rédacteur en chef, qui est à Los Angeles, qui lui est permanent. Moi, je suis freelance, typiquement. Par contre, il y a beaucoup de monde aux Humano. Donc, en fait, l'équipe de la maquette, c'est l'équipe des éditeurs qui s'occupe des BD Metal Hurlant. Ils sont embauchés, ils sont en CDI. Mais moi, ça ne me dérangeait pas du tout d'être freelance. Je trouve ça plutôt même très bien. Ça me permet aussi de bosser sur d'autres projets en parallèle. Mais du coup, ouais, il y a à peu près des gens qui bossent pour Metal à temps plein. Je pense qu'il y a 5-6 personnes en comptant la maquette. Donc voilà, après, il a fallu mettre en place des habitudes de presse qui n'étaient pas forcément évidentes pour des éditeurs. Donc typiquement, tout de suite, moindre des papiers, une semaine avant l'impression, moi je trouve ça normal. Ça peut être 2 jours avant l'impression. Bon, ça les rend fous, mais on ne peut pas. Mais c'est vrai que typiquement, au début, on me disait, il faut que tu rendes tes papiers 2 mois avant. Et moi, je leur disais, ben non, mais la presse, ce n'est pas 2 mois avant, c'est 2 jours avant. Donc on s'est mis d'accord, évidemment, après quelques réunions des fois un peu houleuses, on a réussi à se mettre d'accord, mais c'est vrai qu'en fait moi je fais pas exprès. Il y a des moments typiquement souvent les superstars, on donne des dates et c'est très très compliqué de les avoir. Enfin, moi je vois le cirque que ça a été pour avoir Ridley Scott. Ça a pris 6 mois avec je pense qu'il a annulé 3 fois. Du coup toi t'es là avec ton bouclage qui avance et tu te dis est-ce qu'on va le faire, et puis à la fin on le fait. Et on le fait, et puis on boucle vraiment à la dernière des dernières minutes. Mais c'est aussi ce qui est top dans la presse. C'est qu'on vit, on vit ça. Et ça fait surtout des belles rencontres où on se dit, à un moment donné, quand t'enchaînes, moi j'avais enchaîné White Justice, Ridley Scott, Denis Villeneuve, des gens comme ça dans ta semaine. Tu te dis, ah ouais, c'est pas mal, c'est chouette, ouais, c'est encourageant parce qu'en fait, ce qui me touche, c'est que tu es face à des créatifs qui souvent ont réussi d'un point de vue professionnel et puis même créativement, donc c'est hyper intéressant. Typiquement avec Ridley Scott, dans l'interview qui sortira en fin février, on parle une bonne partie de l'interview, enfin un tiers de l'interview tourne autour de la peinture, parce que Ridley Scott vient en fait des Beaux-Arts et a une très très grande culture peinture. Donc c'est voilà, on peut aussi parler de choses qui sont différentes. On est hors promo, donc les artistes ils sont souvent aussi contents d'être hors promo aussi. Ça aussi c'est un petit truc un peu différent, mais quand il n'y a pas la pression de la promo, c'est vrai que tu as des artistes qui sont vraiment très ouverts et c'est hyper agréable.
Merci. On va parler maintenant de C'est plus que de la SF. Ça fait 5 ans que tu as créé le podcast. C'est devenu la référence audio du coup pour découvrir et aborder la science-fiction. Tu as élargi un peu les horizons en créant une déclinaison, C'est plus que de la fantaisie. Et aujourd'hui, tu as effectivement fait de nouvelles émissions, donc qui ont vu le jour et qui traitent de genres différents. Récemment, tu as fait Lovecraft et la Pléiade, donc son entrée dans la Pléiade, donc dans le genre fantastique. Et tu as même parlé de slasher récemment avec Jaune du label 619. Aujourd'hui, quel est ton rapport avec l'imaginaire et la science-fiction?
Bah, le podcast, bon, moi j'ai créé le podcast parce qu'il n'existait pas d'équivalent. C'est un moment donné où il n'y avait pas de podcast science-fictif, en fait. Ça n'existait pas en France, où il y avait des choses qui tournaient autour des livres, mais il n'y avait rien avec des invités. Il n'y avait pas de podcast talk avec des intervenants. Et donc le principe de l'émission, c'est d'avoir un ou des intervenants par émission. Donc c'est une interview qui dure 40-50 minutes. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'existait pas ça. Donc moi, quand je me lance en 2020, j'ai envie de retourner vers la radio. Ça me manquait vraiment profondément. Et je me dis, bon, bah voilà, j'achète un micro Zoom et puis c'est parti, quoi. C'est l'aventure. Et en fait, on est à plus de 200 émissions maintenant. Et puis, on a eu vraiment des superstars de l'ASF qui sont venus. Donc, j'ai pu interviewer Lou Sikshin. J'étais le deuxième en France, donc le créateur du problème à trois corps. On l'a fait de Chine. Enfin, ça a été toute une galère, mais on l'a fait. On fait des auteurs américains, on fait des mangakas. Le podcast fonctionne bien parce qu'on traite de classiques. En même temps, on a ouvert vers la science aussi récemment pour aussi avoir un autre type de public. Donc c'est vrai qu'un podcast, ça fait bientôt 5 ans. Là, ça fait un mois qu'il y a une pause à cause d'Angoulême, mais là, je reprends la semaine prochaine. Donc dès lundi, il y aura une nouvelle émission.
Gros teasing sur FL Radio.
Voilà, gros teasing, ouais. Il y aura. Non, là, je reprends à partir de lundi. Et puis, donc moi, c'est toutes les semaines, un peu plus quand il y a des émissions sponsor. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'était que bah, quand moi j'ai commencé, il n'y avait personne. Il y avait un peu Radio France, mais il y avait aussi des problématiques de Radio France qui étaient que typiquement faire de la à Radio France, il faut que tu sois dans les studios. Alors, maintenant, on fait un peu plus de vocaux voilà, en direct. Moi, ça m'est arrivé d'être sur Inter quand il y a eu la sortie de Dune. J'étais invité à Los Angeles pour Dune 2, donc j'ai pu faire j'étais dans le téléphone sonne où j'étais en direct de Los Angeles. C'était vraiment très drôle, mais du coup, c'est vrai que le fait d'avoir le temps du podcast et de pouvoir prendre 50 minutes comme 1 heure et demie. Ça, c'est un vrai plaisir. Et après, bah, la fan base, en tout cas, les abonnés ont augmenté. Moi, j'ai 20 000 auditeurs uniques par mois, à peu près. Donc, il faut nourrir ces auditeurs qui sont là, n'écoutent pas toutes les émissions. D'ailleurs, les gens écoutent en fonction des sujets. Donc, le cinéma a beaucoup de succès, notamment.
Il faut dire que c'est de la drogue dure.
Ouais,
c'est très,
ouais.
Très addictif. Hein, on va
bah,
le dire à nos auditrices et à nos auditeurs.
Ouais.
Vous commencez à écouter le premier parmi ceux que vous choisissez, et puis vous ne pouvez plus arrêter. Tout week-end y passe. Hein.
En fait, c'est vrai. Ça, c'est marrant que vous me dites ça, parce que c'est vrai que souvent, le plus dur, c'est de capter l'attention d'un auditeur. Et à partir de là, il ouvre la boîte de Pandore. Et puis, en fait, il y a tellement de choix. J'ai tellement traité de sujets très, très différents avec une myriade d'invités que si vous aimez les jeux vidéo, il y a du jeu vidéo. Si vous voulez avoir le dernier grand auteur à la mode, il y a des chances qu'il soit venu sur le podcast. Il y a eu vraiment des émissions de débat aussi. Moi, je suis assez content d'arriver. C'est le plus dur, hein, c'est d'arriver à créer du débat autour de l'actualité en lien avec la science-fiction, avec des chercheurs, avec des intellectuels. C'est toujours des émissions qui sont super, mais pas évidente. Et puis il y a les grandes émissions sur des classiques de l'ASF qui marchent très bien. Et ça, il y a vraiment un public. Donc j'ai fait cette année, j'ai fait Fondation avec Anne Besson. J'ai fait L'Homme des Jeux d'Yann M. Bang. J'ai fait Ravage de Barjavel. Enfin bref, j'essaie vraiment de faire les grands classiques de l'ASF qui me permet moi de les relire ou de les lire. Et puis d'inviter vraiment des spécialistes à en parler. Et c'est souvent intéressant parce que bah, les gens sont contents aussi de retrouver peut-être une analyse un peu plus poussée ou détaillée de leur livre préféré ou de leur auteur préféré. Donc ça fait partie de l'expérience du podcast. Je pense maintenant, le challenge, c'est vraiment d'arriver à être généreux en fait dans le choix des émissions, dans le choix des invités. Pareil, j'essaye de faire tous les gros films ou les grosses séries françaises de genre, de SF. Les gens viennent sur le podcast, donc ça, je suis hyper content. Ça a été compliqué à mettre en place, mais vraiment, les grandes séries de SF françaises ou les grands films de SF français, les gens viennent, les réalisateurs viennent naturellement, donc... Voilà, au fur et à mesure quand même des aventures, j'ai eu vraiment de très très beaux invités. Et du coup, ça donne envie aux gens de venir. Voilà, tout simplement, hein. Quand tu dis qu'il y a eu un tel qui est venu, bon bah, au moins la personne, l'invité, il sait que ça va et que ça s'est plutôt bien passé. Mais en fait, comme on est très peu à parler de science-fiction en France, en journaliste, on est, je crois, 4. Donc il y a Libération, il y a un peu Télérama, il y a un peu Radio France, France Culture, avec soit François Joliet, soit d'autres journalistes. Du coup, bah, on est dans une ère où maintenant les gens ils veulent aussi choisir leur propre information et leurs propres médias. Donc, si tu veux savoir qu'est-ce qu'il faut lire ou voir en SF, c'est pas mal d'écouter le podcast. Après, ce qui est compliqué, c'est d'arriver aussi à rester. Enfin, l'objectif, c'est vraiment de rester pertinent. Donc, j'essaye de pas trop faire d'actu chaude. Ça veut dire que typiquement, je l'ai fait un peu pour certaines séries. Maintenant, je préfère attendre que la saison soit terminée pour vraiment sortir le podcast et au moins que. Voilà, t'as vu la saison, t'as vu la série, l'auditeur peut se faire plaisir et écouter les analyses. Mais bon, ça reste un podcast qui est indépendant, hein, donc moi j'en vis un petit peu. Avec les années, il y a pas mal d'éditeurs achètent aussi de l'espace dessus. Mais ça reste une aventure qui a été hyper utile pour aussi créer une communauté, rencontrer des gens. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal de villes où quand je viens, il y a des auditeurs qui viennent, donc c'est super sympa. Et puis les fans de SF, c'est des gens super sympas. Donc souvent, on peut vraiment parler de pas mal de sujets, de partager nos plaisirs de lecture. Je pense qu'il y a ce truc-là qui est important. Donc, non, non, l'idée, c'est vraiment d'arriver à. Je pense que hein, moi, la vision que j'avais de mon métier de journaliste, c'était de pouvoir recommander des gens qui sont peu connus et pouvoir participer à enfin, cultiver les gens, quoi. Donc, je pense que grâce à mon podcast, je sais que pas mal de gens vont en librairie pour découvrir des BD, découvrir des auteurs et du coup, permettre enfin, à son petit niveau de pouvoir aider à la culture populaire et collective, ouais, moi c'est ça qui me fait un peu vibrer.
C'est plus que de la fantasy, t'as arrêté depuis un petit moment. Est-ce
Ouais.
que c'est plus que de la SF, va rester vraiment focus sur la SF ou est-ce que tu vas continuer d'élargir un peu les genres ou...
Ouais, j'ai créé c'est plus que de la fantasy, et puis après il y a eu Metal Hurlant qui est arrivé, et donc du coup je suis arrivé à mes limites aussi en termes pro sur le c'est plus que de la SF, je suis tout seul encore, hein, je fais le montage tout seul. J'ai un web designer pour le site internet et j'ai un graphiste pour les visuels et une community manager pour Instagram. Mais sinon, pour tout ce qui est la conception même du podcast, je suis encore seul. Je vais peut-être essayer de me staffer avec un étudiant ou voilà, parce que je sens que j'arrive aussi à une forme de limite. Parce qu'en parallèle, il y a pas que le podcast, il y a Metal, il y a aussi la bande dessinée, il y a aussi des projets de beaux livres. Mais c'est plus que de la fantasy, j'aimerais vraiment le relancer parce qu'il y a une vraie hype. Enfin, je sais quoi, je vois les. On m'en parle encore de ce podcast. Non, mais moi, je pense que tous les mois, il y a quelqu'un qui m'envoie un message pour me dire c'est quand que. C'est plus que de la fantaisie revient. Donc, l'idée, ça va être de m'organiser. Parce que la problématique, c'est de lire les livres. Voir des films et des séries, ça va encore. Jouer aux jeux vidéo, ça va encore. Mais lire des livres de 300, 400 pages, voire plus. Parce qu'en fantaisie, il y a souvent plus. Ça prend vraiment du temps. Donc, tout dépend. Est-ce que je fais le choix de pas tout lire? Ah, moi, j'ai déjà fait hein, des articles où je critique un livre où j'ai lu la moitié ou 300 pages. Parce que tu peux aussi bien voir. Mais c'est hyper frustrant. Et puis j'aime bien le polar moi aussi. Le polar ça me détend. Quand je lis pas de SF, je lis du polar pendant mes vacances. Mais non, non, j'aimerais bien reprendre la fantasy, mais il faut juste que j'arrive à me staffer et puis à trouver quelqu'un aussi avec qui ça se passe bien. Parce qu'après, bah, vous avez, c'est le truc classique, hein, vous contrôlez tout. Même j'ai une newsletter, c'est compliqué d'arriver à. Il y a quelqu'un qui m'aide à l'écrire et puis je suis pas toujours satisfait, donc il faut que je réécrive, donc on réécrit ensemble. Enfin. Voilà, dès qu'il y a quelqu'un d'autre aussi dans l'équation et que c'est pas soi-même, des fois c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est ça l'aventure aussi de ce média qui reste un média vraiment, vraiment indépendant. Mais c'est intéressant, ça ouvre de belles portes. Ouais.
Tu as été directeur d'ouvrage donc sur le MOOC Dune, qui est publié aux éditions La Talentélia.
Ouais.
Scénariste pour Vertigéo, donc une dystopie adaptée d'une nouvelle de l'auteur Emmanuel Delporte, donc publiée aux éditions Casterman. Ces deux projets qui ont quand même rencontré un beau succès. Est-ce que tu peux nous en dire plus dans tes futurs projets dans le monde de l'édition?
En fait, alors pour revenir juste vite fait sur pourquoi ça a fonctionné, c'est vraiment cette phrase de Daniel Morin que j'ai dit tout à l'heure en entretien, qui est sur dans un monde d'eau tiède, il faut faire de l'eau chaude. Globalement, on vit un âge d'or de la production culturelle. Il n'y a jamais eu autant de films, de séries, de romans. Ce qu'on vit, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a une espèce de surproduction créative qui est totalement dingue. Et en fait, compliqué d'arriver à s'en sortir quand tu veux produire toi-même des choses. Et vraiment, l'important, je pense, c'est un, de respecter son lecteur et aller vers, moi, de ce que j'appelle faire du premium, donc aller vers des projets de qualité à haute valeur ajoutée. Dune, le fameux magazine Book, qui est après devenu un beau livre, donc Tout sur Dune ou Dune le MOOC, il n'y avait jamais eu ça en France. Il n'y avait jamais eu d'œuvre collective qui analysait l'œuvre d'Herbert avec des illustrations à toutes les pages et notamment au moins une 25 illustrations inédites qu'on a fait faire pour le livre.
Est-ce que tu avais dès le départ l'idée de faire cet objet hybride un peu?
Ouais. Moi, dès 2000. En fait, l'histoire de Dune le MOOC, c'est assez marrant. Mon premier papier pour Le Point, c'était dans un spécial science-fiction. Et donc, on ne me faisait pas confiance parce que je n'avais pas assez de niveau littéraire, enfin, d'écriture pour faire ce genre d'article. Et en fait, un journaliste de la rédac fait un article totalement nul sur Dune. Et on me demande de sauver l'article en 4 jours, en un week-end, en 2 jours. Donc, bon, bah voilà, je passe 2 jours à écrire littéralement l'article, quoi. Donc, c'était un 12 000 signes. J'écris, 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 j'écris. Et puis, en fait, quand l'article sort, c'est pas mon nom qui est mis, c'est le nom du journaliste. Donc, j'ai fait le travail, bon, j'ai fait ce qu'on a fait, le travail d'un nègre, quoi. Donc, j'étais payé comme tel, mais quand même, il y avait une forme de haute déception de voir 80% de ma plume
Donc une envie
remplacée.
de revanche quand même, un
Il y a
petit
une
peu.
envie de revanche, et je me suis dit, voilà, tôt ou tard, j'aurai ma revanche comme dans Gladiator. Et donc, du coup, j'ai fait mon hors-série à moi, et puis j'en ai vendu 23 000. Puis, au point, mon rédacteur en chef culture de l'époque n'a pas apprécié, donc il m'a empêché d'écrire après quelques mois, mais c'était pas grave. C'était. Voilà, j'avais créé mon truc, quoi. Donc, du coup, moi, il y avait cette envie de faire vraiment un beau livre, et j'ai envie d'en faire d'autres. Donc, tu parlais d'autres projets. Moi, j'aimerais vraiment arriver à faire un Blade Runner. Donc, pareil, analyser l'œuvre de Dick, analyser l'œuvre de Scott, et analyser l'œuvre de Villeneuve. Il y avait vraiment une envie de proposer des beaux livres qui analysent vraiment des classiques du genre d'un point de vue littéraire et aussi audiovisuel, et en ajoutant, en faisant en fait des livres collectifs. Donc, ça veut dire qu'en fait, surtout sur Dune, il y avait à peu près 100 auteurs. Il y avait plein de profils différents. On avait 8 illustrateurs, dont le grand Wojtek Siunmak, dont Fred Vigneault qui fait Torgal. Enfin, donc sur Blade Runner, il y aura de très très gros dessinateurs de BD aussi dessus. Mais voilà, l'idée est vraiment de proposer des projets qui se fait pas beaucoup parce qu'en fait, un livre comme ça, pour être tout à fait honnête avec vous, ça coûte à peu près entre 120 à 150 000 euros. Donc quand dans l'édition, moi j'ai rencontré 15 éditeurs après avoir fait ce succès sur Dune, et quand je leur ai dit combien ça allait leur coûter sans crowdfunding, ils m'ont tous dit que c'était pas possible, malgré le succès. Donc du coup, si on veut faire des livres ambitieux comme ça, qui sont un peu hors normes, bah, il faut faire de la il faut faire du financement participatif. Il faut après faire de la coédition pour être dans les canaux de diffusion-distribution qui fonctionnent. Mais du coup, il faut vraiment porter le livre et proposer vraiment quelque chose d'innovant. Donc, il y a des envies de refaire des beaux livres comme ça. J'aimerais bien faire un Blade Runner, donc. Pourquoi pas faire aussi d'autres choses sur Jules Verne, sur Asimov. Je pense qu'il y a des gros auteurs de SF ou des gros auteurs de genre qui n'ont pas eu vraiment une belle analyse d'œuvre qui mérite, mais aussi une analyse d'œuvre qui est ouverte à tout le monde. Ça, c'est hyper important. Et puis, bah, il y a de la bande dessinée, ouais. J'ai envie de faire d'autres BD de science-fiction. Vertigo a plutôt bien fonctionné. On a dépassé les 10 000 exemplaires et ça a fonctionné. Alors, la BD est sympathique. Il y a pas mal de défauts, hein. C'est ma première BD. Voilà, je suis très content que ça ait fonctionné, mais il y a une frustration parce que, en tant que lecteur de BD, j'aurais dû et j'aurais pu peut-être faire mieux. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a proposé de la SF rétro, vintage. Et du coup, bah, il y a un public, hein, qui aime les BD des années 80-90. Vertigo, ça s'inscrit totalement dans ce genre de roman graphique qui rend hommage aux transpersonnages et à ces classiques-là. Donc, il y a une bonne connaissance du marché qui est hyper important quand on présente un projet éditorial. C'est vraiment aussi connaître à qui on s'adresse. C'est pour qui qu'on fait ce livre, concrètement. Et puis après, bah, pour l'instant, je touche du bois. Hein. Tous les livres que j'ai produits ou que j'ai faits ont été rentables et ont fonctionné. Mais l'idée, c'est vraiment de garder cette rigueur-là vis-à-vis du lectorat, quoi. Donc, c'est hyper important de parler au lecteur, de parler au libraire, de sentir aussi qu'ont envie les lecteurs d'imaginaire, qu'est-ce que. Voilà, donc le fait de faire Metal Hurlant me permet de garder la main un peu sur ce côté rédactionnel et de pas trop perdre sur l'écriture. Mais dans les prochains projets, ouais, il y a une envie de faire un MOOC Blade Runner et puis de faire d'autres BD de science-fiction. Mais voilà, ça prend du temps et puis il faut écrire. Donc écrire un scénario, c'est aussi un peu de temps de se poser chez soi et puis vraiment d'avancer sur le découpage, d'avancer sur les dialogues. Il faut arriver à jongler avec plein de casquettes différentes. Donc c'est aussi ça qui est l'intérêt d'être freelance, mais ouais, des fois c'est il y a des belles semaines, ouais. Je travaille le week-end en tout cas.
Avant de refermer le club pour aujourd'hui, Liod, je pense que Sébastien a une toute dernière question à te poser.
Le thème des Miss Eliot, ça concerne les intelligences artificielles humaines et extraterrestres. Donc tout à l'heure, tu as parlé du cycle des robots, d'Isaac Asimov. Est-ce que éventuellement, pour les auditeurs, tu aurais une œuvre à conseiller sur cette thématique?
Ouais, moi je recommanderais L'homme des jeux de Ian M. Banks. Banks, il a créé une utopie avec des IA, c'est le cycle de la culture. C'est considéré comme un modèle d'utopie réussie. Alors vous le savez, le problème des utopies, c'est que souvent on peut s'ennuyer. La dystopie, il y a des enjeux, il y a des tensions, il y a des méchants. L'utopie où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, souvent ça peut ennuyer un peu le lecteur rapidement. Et donc, dans L'homme des jeux de Ian M. Banks, moi j'ai fait un podcast dessus qui est une belle ouverture à ce classique de l'ASF. On est face à donc, une espèce de galaxie qui s'appelle la culture, enfin, c'est une société qui réunit des planètes. Et puis, dans cette société où l'homme vit en cohésion avec l'IA, l'intelligence artificielle, les robots, les drones, il y a ce qu'on appelle le service contact, qui est un espèce de service un peu secret qui fait les mauvais coups. Donc, pour permettre à cette utopie de vivre, il faut quand même un service un peu secret qui fait des sales coups. Et donc, le cycle de la culture raconte les grandes missions de ce fameux groupe contact. Et la première mission s'appelle, c'est celle de l'homme des jeux. Et donc, il y a où le meilleur joueur de la culture arrive sur une planète où ta place sociale est liée en fonction de si tu es fort ou pas à ce fameux jeu. Et donc, ce fameux compétiteur va arriver pour essayer de devenir le champion de cette planète-là et donc le roi de la planète. Et en fait, il arrive dans un monde qui est hyper, hyper violent, hyper agressif, où vraiment tu es catégorisé en fonction de ta force sur le jeu. Et lui, c'est un extraterrestre, c'est un alien, quoi. Donc en fait, c'est pour ce peuple-là, c'est impossible qu'un humain lambda soit aussi fort à ce jeu-là. Donc voilà, ça s'appelle L'homme des jeux. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre de la SF. Et je recommande de lire tout Ian M. Banks parce que c'est super et c'est assez peu connu, malheureusement, mais tout existe au livre de poche. Donc faut pas hésiter.
Tu n'échapperas pas, cher Lyode, à la question qu'on a posée tout au long de cette semaine et qu'on posera encore demain avec l'équipe d'Eiffel Radio, puisque nous sommes au cœur des mycéliades et donc de la science-fiction. C'est comment tu vois l'édition dans le domaine de la science-fiction en 2050?
Moi, je vais être assez sévère. On peut espérer que le livre soit toujours là en tant qu'objet. Je pense que le numérique va prendre de plus en plus de place. Ça me paraît évident. La lecture numérique, la France résiste, hein. On est quand même très attaché à l'objet livre. Donc, je pense qu'il existera toujours des livres. On est quand même un pays de livres. Mais du coup, l'édition numérique va augmenter. La problématique, c'est qu'il y a une surproduction, donc, comme j'ai dit, et notamment une surproduction dans les littératures de l'imaginaire. Globalement, il y a allez, quoi, une dizaine d'auteurs et d'autrices vraiment importants et qui ont du mal à avoir à avoir on va dire une popularité médiatique à part Alain Damasio. C'est compliqué d'exister derrière. Donc, je pense que la SF, le seul risque de la SF, c'est d'être rattrapé par la réalité. Donc, on verra dans 2050 où est-ce qu'on en sera, mais bon. Voilà, le premier contact avec une espèce alien, je pense pas que ça va arriver tout de suite, si ça arrive un jour, mais c'est sûr que on vit un moment assez fascinant où finalement la science-fiction a beaucoup alerté. Hein, on alerte l'état de la société. Enfin, un livre comme Tous à Zanzibar de John Brunner est pour moi vraiment un livre qui se rapproche le plus de ce qu'on vit maintenant en 2025. Et donc la SF a quand même beaucoup alerté depuis les années 70 sur l'état de la planète, de la société. Et voilà, on se dirige vers quelque chose qui est un espèce de mix entre du post-apo avec le climat qui déconne et avec des incendies, le cyberpunk avec le portable qui est devenu le prolongement de la main. Il y a une espèce de retour à la course aux étoiles avec Elon Musk et autres. Le côté un peu dystopique avec des sociétés qui ont l'air de plutôt favoriser des hommes charismatiques et légèrement tyranniques dans des grandes démocraties. Donc c'est bien, on vit quand même, on est à la croisée de plein de genres de l'ASF. Et bon, des fois, ça se termine pas très bien. Mais moi, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. Donc, je pense qu'en 2050, on sera pas au bout de nos peines. Déjà, on n'est pas encore en 2030 et c'est déjà pas mal. Donc, je pense qu'on va aussi. J'espère qu'on assistera aussi à une autre, à la développement d'une science-fiction de d'autres continents. Là, pour l'instant, la meilleure SF se fait en Chine. La SF chinoise est très très dynamique. Il se passe beaucoup de choses. Il y a un boom de la SF chinoise actuellement. Donc, on n'a pas forcément accès parce que bah, voilà, la langue ne permet pas. Mais en Chine, il se passe des choses. J'espère que la science-fiction africaine va se développer. Je pense que l'Afrique, c'est le grand continent de demain. Et donc, ça risque d'être très, très intéressant quand aussi l'Afrique va aussi rayonner. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que souvent, on observe que la science-fiction, elle vit un âge d'or en même temps que les pays vivent un âge d'or. Donc, bah, typiquement, dans les années 40, c'est le moment où l'Amérique, ça monte, ça monte, ça monte. Et vraiment, le paroxysme de l'âge d'or, c'est post-Seconde Guerre mondiale, quoi. C'est dans les années 50. La Chine, qui vit aussi un âge d'or, enfin, en tout cas d'un point de vue technologique, il se passe quand même des choses, c'est là où la science-fiction est hyper intéressante. Donc il y a tout un lien à faire aussi avec comment avancent les pays et comment aussi la science-fiction, quand elle est là, apparaît. Dans le cas de l'Occident, c'était facile parce que bah, depuis le 19e siècle, il y avait quand même une littérature qui allait vers ça. Mais dans des pays comme la Chine, où il n'y a pas forcément de SF, alors il y a de la proto-SF, mais là, il se passe vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, non, moi, je reste quand même assez optimiste et j'espère qu'en 2050, je continuerai à lire de la science-fiction. Voilà.
Bon, je suis certain, chères auditrices, chers auditeurs, que vous avez encore 1000 questions que vous aimeriez poser à Lloyd. On le réinvitera, mais vous avez compris qu'il avait un emploi du temps très, très, très chargé. En tout cas, allez faire un tour sur le podcast, c'est plus que de la SF. Vous y apprendrez beaucoup, beaucoup de choses sur l'actualité et sur les grands auteurs de SF. Et même, et moi j'en suis de gens qui ne connaissent pas la SF, c'est un excellent blog, podcast plutôt, de vulgarisation de la SF. En tout cas, merci d'avoir passé
Merci, merci.
cette heure avec nous. On va refermer maintenant le club. Merci à Sébastien de nous avoir apporté dans la préparation de cette émission et dans l'animation toutes les connaissances qui sont les tiennes. On rappelle que peut aussi suivre ton travail rédactionnel sur le site que tu vas rappeler à l'instant.
Les mille mondes.
Voilà, n'hésitez pas non plus. Merci à Mathis et à Thomas pour la réalisation de l'émission. Vous pourrez bien entendu réécouter celle-ci sur le podcast, cette fois de FL Radio, sur www.radiofl.fr. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Insta et les autres réseaux sociaux. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain Club FL sur la radio Flandre Lys. Merci à tous.
Plus de hits, plus de musique avec Radio FL.